Bienvenue sur notre podcast Match après match.
Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre talk 100% foot. On débriefe l'actu du ballon rond. Bienvenue dans Match après match. On passe la prochaine heure avec Mickaël Bugnon, avec Steven Lang et avec Krechnik Ayrizi du FC Sion. Salut les gars.
Salut Daniel.
Krechnik, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi au FC Sion qui nous le confie pendant 60 minutes. Je vous fais un petit programme rapide. On reviendra évidemment sur le nul des Valaisans hier au stade municipal contre Yverdon. On va revenir sur les matchs des clubs romands ce dimanche. On parlera d'un nouveau classico d'anthologie. Encore une fois, une pluie de buts et plein de choses à vous dire. Les arrêts de Yann Sommer, ceux de Gigio Donnarumma en Champions League. Mais avant, forcément, l'actu brûlante, l'actu chaude, c'est le titre de champion du FC Bâle. Premier titre depuis 8 ans. Et j'ai envie de dire, les gars, enfin, je crois que c'est le mot qu'on retiendra aujourd'hui.
Ouais, tu dis enfin sur cette saison ou enfin sur les 8 dernières
années ? Enfin sur les 8 dernières années.
Ouais, c'est vrai qu'on attendait le retour du FC Bâle au sommet sur ces dernières saisons. Après...
Je te coupe juste, on a des images en live des Balois en ce moment, comme ça les téléspectateurs comprennent.
Ah ouais, d'accord, ouais.
Ils sont en train et ils sont,
t'es sûr qu'ils sont pas là pour l'Eurovision ?
Ils sont pas là pour l'Eurovision parce que finalement, vu qu'il y a le titre du FC Bâle, ça a pas mal chamboulé les choses dans la cité rhénane. Il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, vous pouvez interagir avec nous sur YouTube. N'hésitez pas à intervenir et je te rends la parole.
Ouais, en fait, ils le méritent. Surtout j'ai envie de dire le public. Les suiveurs du FC Bâle le méritent parce que même quand ça allait pas, même quand rien n'allait dans ce club, il y a eu des moments très compliqués. Je pense que tout le monde se rappelle de ce fameux match contre le Slow. C'était en début
3-0.
De saison passée, je crois.
3-0 à Bâle.
Le public était très dur à ce moment-là, mais juste, il continuait de supporter quand même son équipe. Et quand on voit une année après, une année et demie après, ce qu'ils ont réussi à faire, ça part des dirigeants, mais de Fabio Celestini, aussi certains joueurs qui sont revenus, comme Sherdan Shaqiri, on est obligé d'en parler. C'est mérité, c'est logique. Retrouver Bâle aussi en Europe pour le championnat suisse, c'est complètement normal. Et heureusement pour nous, je pense aussi, parce que c'est peut-être l'équipe qui peut nous faire aller plus loin, peut-être à l'avenir. Donc, complètement mérité et complètement logique.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et moi, j'ai en tête un match, c'est à Kriens. Je crois que c'est un match de coupe. Et il y avait la Moutonsorkové qui était vraiment sur tout le long du terrain. Et c'était impressionnant. Mais comme tu l'as dit, pour moi, les fans m'ont surpris vraiment bien. Parce que dans un tel club, quand tu n'as pas les résultats, normalement, les supporters se retournent contre ton équipe. Là, ils ont été là du début à la fin. Et eux aussi méritent ce titre. Et c'est un grand club. Et c'est bien de les revoir tout en haut.
Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le premier match de Fabio Celestini avec le FC Bâle.
Là où il explique à Barry qu'il doit être remplaçant.
Et qu'il doit qualifier Bâle pour la suite de la Coupe. Et ouais, tout part de là. Fabio Celestini, Krechnik, de l'extérieur, comment tu le perçois?
C'est un grand coach. On a vu ce qu'il fait avec Bâle. Où Bâle, il le reprend, c'était pas top. Et là, avec ce gagner le championnat comme ça, c'est un truc de fou. Et c'est bien pour eux parce que ça faisait longtemps qu'ils attendaient ça. Après. IB, ils leur ont facilité les choses, on va dire. Et c'est bien pour eux, vraiment. Félicitations à eux et avec Jardin qui fait des folies.
Jardin, on en parle. On en a déjà parlé la semaine dernière.
Hein. On
ne peut pas ne pas parler de Jardin Shaqiri, encore énorme hier soir. Mais c'est, quand et où s'arrêtera-t-il,
franchement ? Ce qui est marrant hier, c'est que j'étais en plateau ici même et à la mi-temps, je parle à Claude Gross en lui disant pour une fois on l'a pas trop vu Sherdan Shaqiri, il me tire un corner, bon voilà, sympa. Puis tout d'un coup il arrive en deuxième mi-temps, il te plante 3 buts en 9 minutes. Alors il est pas tout seul sur le terrain de nouveau, mais c'est quand même lui qui fait la différence, c'est lui qui a le geste au bon moment, le petit lob sur Fayoulou. Il y a peut-être un joueur sur 10 qui y pense et qui arrive à le faire à ce moment-là, et il le fait. Donc oui, non, Sherdan Shaqiri, c'est le plus. Moi, j'aime pas qu'on dise forcément c'est parce que le niveau du championnat est plus bas. Moi, je pense juste que Shaqiri a retrouvé un état de forme qui est vraiment exceptionnel parce que même à son arrivée, c'était pas forcément le cas. Si on prend le Sherdan Shaqiri de septembre-octobre ou le Sherdan Shaqiri de maintenant, les stats étaient déjà pas mal, mais quand on le regarde jouer maintenant, c'est pas le même homme.
Steven, tu voulais intervenir, je te pose une question et en même temps, tu réponds. Il est encore trop fort pour la Super League.
Oui, mais là où je suis pas d'accord avec toi, Mickaël, c'est que pour moi, ça montre clairement que le championnat a quand même baissé. Bah, c'est un joueur qui était en difficulté en MLS. Alors là, ce qu'il fait, il est au-dessus de tous et les stats le prouvent. Mais même dans le jeu, il a des moments de génie. Mais c'est pas normal qu'un tel joueur à son âge soit autant fort et aussi décisif, pour moi.
Hein. Ouais, il a 33 ans, c'est pas non plus un papy.
Ouais, mais il est plus quand même sur la fin que sur le début. Et là, il y a un immense écart entre lui et le deuxième meilleur du championnat. Donc, ouais, vraiment bravo à lui. Mais les premiers mois, quand il est arrivé, moi j'avais de gros doutes parce que je me suis dit, bon, Sherdan Shaqiri, ok, c'est un nom qui arrive, c'est une identité pour les gens, mais.
Je pense que tout le monde a douté en vrai. Peut-être certains le disaient plus que d'autres, mais tout le monde se disait, ouais, mais non, effectivement, il faisait plus rien en MLS. Moi, du coup, je rebondis, je pense que l'environnement a beaucoup joué. C'est-à-dire qu'il sait où il arrive, il connaît le Parc Saint-Jacques, il connaît les gens, il connaît le championnat. Et t'as 33 ans ou 20 ans, ça change pas grand-chose. Là, le joueur, il peut retrouver son épanouissement complet. Et je pense pas que c'est un rapport forcément avec la qualité du championnat. Par rapport à ces 5 dernières années, je vois pas forcément un championnat moins bon. Il y a peut-être plus d'équilibre et on n'a pas forcément une énorme équipe. Bah, finalement, cette année, c'est peut-être quand même Bâle, mais d'habitude, on avait justement IB qui était très fort et derrière, ce n'était pas meilleur que cette année. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas cette impression-là.
Il y a aussi la gestion de Fabio Celestini avec Sherdan. Pour moi, elle est exceptionnelle, sa gestion.
Ce n'était pas gagné d'avance.
Ben non, parce qu'on connaît le caractère de Fabio Celestini et on sait que lui, il veut aussi jouer d'une certaine manière. Il aime bien que ses attaquants pressent court. Là, il a accepté le fait que bah, lui, il reste devant, il attend que les ballons viennent, il se déplace absolument où il veut sur le terrain.
Mais quand ça allait pas, il le sortait quand même des fois à la pause ou à la 60e, on voyait Shaqiri énervé, mais au match suivant, il revenait quand même avec des bonnes intentions. Donc il faut croire que.
Il n'y a jamais eu de clash entre
eux. Ouais, exactement.
Et tant mieux.
Krasnik, c'est dur de défendre sur Shaqiri
J'ai pas joué contre Bâle cette saison, mais je l'ai eu à Lugano 2 semaines quand il préparait l'Euro, je crois, ou la Coupe du Monde, où il sortait une passe. Il n'y a que lui qui la voyait. Et c'était vraiment un truc où tu te dis, c'est pas normal. Où tu vois qu'il a joué plus haut. Où moi, j'étais un peu encore... Ça, c'était ma deuxième année en Super League. Où tu dis, c'est ça le vrai niveau. Et il te faisait des passes. Et vraiment, il n'y a que lui qui voyait.
Ouais, c'est-à-dire que lui, il invente des choses que toi, tu n'as pas vues. Il voit des choses avant que toi-même, tu les aies vues.
On voit même maintenant les l'assist qu'il fait... Bon, chaque match, tu peux rater tous ses assists. Ça vient de nulle part.
Et puis, il a aussi bonifié ses coéquipiers. Parce qu'on voit maintenant, dès qu'il touche le ballon, en 2 touches, tu as les ailiers qui partent en profondeur. Ouais. Ça a étiré aussi les adversaires. Et après, bon, retenez ce que je dis parce que je me trompe à chaque fois. Donc, c'est intéressant. Mais il a aussi un caractère qui est particulier, Sherdan. Quand on le voit parler ou réclamer auprès de ses coéquipiers, ça passe parce que là, il est tellement efficace qu'on ne peut strictement rien dire. Je me réjouis de voir la saison prochaine si tout à coup il y a un petit peu moins de passes dés et de buts. Comment les gens vont réagir ?
Où je te rejoins, c'est que des fois, on voit presque un Shaqiri aller piquer le ballon à son coéquipier pour faire le jeu. Et ça, bah, ça marche parce qu'il marque 18 buts et 20 passes dés. Mais si tout d'un coup, tu as un Bâle qui perd, l'année prochaine aussi au niveau européen, on verra ce que ça donne.
Bon, après, il prend ses responsabilités. Moi, c'est ce que j'aime chez lui, justement. Même si ça, il n'est pas dans une série positive comme maintenant, il le ferait, ça. Parce que c'est un leader, c'est le mec qui va essayer de tout faire. Ouais, c'est sa manière de jouer. Donc, je pense pas que ça changerait. Par contre, ça pourrait agacer les coéquipiers, le reste de l'équipe. Effectivement, ce caractère-là, mais c'est ce caractère-là qui l'a fait arriver où il a.
Là, tu sens, en fait, c'était le cas hier, que les joueurs ont confiance en lui. C'est-à-dire que s'il vient prendre le ballon dans le rang central. Exactement. Si Shaqiri veut le ballon à ce moment-là, c'est qu'il sait ce qu'il doit en faire. Ouais. Et peut-être que si Bâle va un tout petit peu moins bien, les joueurs vont justement peut-être pas tout le temps jouer avec lui, ce qui va le frustrer aussi. Et ça peut changer pas mal de choses. Mais là, ça n'a pas du tout été le cas cette saison.
Alors, il y a Patrick Moret qui est pas content du niveau de la Super League. Il rappelle qu'on est sous la menace de Chypre et d'Israël au classement UEFA. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bien. Et puis, Flavio qui demande est-ce que. Alors. La question, elle est un peu dirigée. De toute façon, Shaqiri a pris sa retraite internationale. Est-ce qu'il faut le rappeler ? C'est-à-dire que s'il y a une porte entrouverte, à un moment donné, est-ce que Murat Yakin doit le rappeler ?
Non, pour moi, non. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont en place et ça serait un peu du réchauffé. Alors, niveau suisse, il est exceptionnel et immense respect. Je suis qui pour critiquer Sherdan ? Il a une telle carrière. Mais c'est bon, pour moi, il faut passer à autre chose. D'ailleurs, il a pris sa retraite et je ne pense pas qu'il a l'intention de revenir. Il y a une nouvelle génération qui va arriver. Alvin Sanchez, qui malheureusement, entre-temps, s'est blessé. Mais c'était à lui de reprendre un peu le flambeau. Pour moi, il ne faut pas que Sherdan revienne.
Toi, t'aimerais bien le revoir.
Mais En fait, je
pour voir ce que ça donne.
Je suis d'accord avec Steven dans le fond parce que c'est vrai que maintenant à 33 ans, lui a dit stop. Donc est-ce que vraiment aller le rechercher, ce serait une bonne idée? Quand il y aura le prochain grand tournoi, il aura 34. Je pense pas que ce soit vraiment utile. Maintenant, quand on voit le niveau qu'il a en ce moment, je me dis
Il ferait du bien.
Il ferait du bien, ouais. Mais lui, le problème, c'est que tu es obligé de le faire jouer si tu le prends en équipe de Suisse. Tu vas pas le mettre sur le banc et puis le faire jouer 30
minutes. Ou alors, si tu t'arranges avec lui et tu lui dis « je te prends, mais je te prends comme joker et je te fais rentrer pour le dernier quart d'heure, les 10 dernières minutes », tu acceptes à prendre ou à laisser et que ça peut matcher, pourquoi pas
?
Parce que franchement, un type comme ça qui te met pas la banane de la 120e minute contre l'Angleterre, c'est... Désolé, je t'ai
pas nécessaire, ça.
Désolé, ça m'est venu comme ça, vraiment navré. Allez, on doit avancer, hein. On reviendra sur le FC Bâle, évidemment, avant la fin de la saison. Il reste encore deux émissions de match après match. On en reparlera un petit peu plus longuement la saison prochaine, mais on profite de la visite de Krešnik Ayrizi pour parler un peu du match d'hier, du match de samedi soir. C'était au Municipal, le 1 partout entre Yverdon et Sion. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On parle d'abord de Sion. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce 1 hier soir? S'il fallait retenir une seule chose, ce serait quoi? Krešnik, on rappelle, vous n'avez pas joué, vous étiez suspendu, vous étiez en tribune.
Bah, moi, je veux dire... la réaction du FC Sion, parce que on fait une première mi-temps inexistante où on était dans tous les aspects, on n'était pas là malheureusement. Et dans les matchs de maintien, tu fais une première mi-temps comme ça, c'est interdit. Et heureusement qu'en deuxième mi-temps, on fait pas notre meilleur match, mais on a la réaction juste pour prendre le point qui est énorme.
Peut-être c'est ça hein, qu'il faut retenir, c'est ce point-là. Je suis d'accord avec vous. Enfin, moi, j'ai détesté la première mi-temps de Sion. J'étais au Municipal. J'ai trouvé qu'on avait l'impression que c'était la première fois que cette équipe jouait ensemble. Il y avait pas d'appel, il n'y avait pas de coordination, il y avait rien. Il se passait strictement rien. Et c'est pas la première fois que ça arrive.
Ah, voilà.
Donc, c'est quoi l'explication?
Bah, c'est là où je voulais en venir. Bah, l'explication, c'est que c'est quand même un néo-promu. C'est qu'on arrive en fin de saison et que finalement, dans toute ta saison, tu n'as pas eu beaucoup de matchs où tu es 90 minutes très bon. Enfin, d'ailleurs, c'est le cas des deux équipes hier. Si tu es dans la zone basse du classement et tu joues la relégation, ce n'est pas pour rien. C'est que tu as deux équipes. Bah, d'ailleurs, la première mi-temps est pour Yverdon, la deuxième est pour Sion. Finalement, un partout, bah, le score est complètement logique. Et c'est arrivé plein de fois cette saison pour ces deux équipes, mais notamment pour Sion, où bah, peut-être tu as un blackout de 20 minutes, où tu as une mauvaise mi-temps comme hier. Et c'est impossible d'être dans le top 6 ou plus haut en étant comme ça. Mais pour moi, c'est normal. C'est une équipe qui arrive d'en bas et tu t'apprends aussi comme ça.
C'est souvent arrivé en premier. C'est-à-dire, vous étiez soit bon en première mi-temps et pas bon en deuxième, ou vice-versa. Mais il n'y a pas des creux, des moments creux ou des moments mieux dans une seule et même mi-temps.
Après, ça c'est compliqué à expliquer parce que c'est un match. Tu sais jamais ce qui va se passer. Toi, tu commences l'échauffement, tu te sens que tu es prêt et d'un coup, on est 11 sur le terrain où ce qu'on essaye de faire, ça ne fonctionne pas. Donc, tu es dans un coup de mou. Et c'est compliqué à expliquer parce que tu as 90 minutes où... Le plus important, c'est de prendre les 3 points à la fin, surtout dans la période où on est. Et avec la mi-temps qu'on fait, c'est le point qu'on prend, il est énorme.
Mmh. Et puis, comme vous l'avez dit, la deuxième mi-temps est nettement meilleure, nettement plus convaincante, mais aussi parce qu'il y a eu ces changements. Il y a des entrées de joueurs comme Cipriano qui ont fait la différence. Il y a aussi...
Bouchlarem, quand même.
Bouchlarem, exactement. Moi, j'ai noté Diouf aussi. Oui, bah justement, Miranchuk, Ziegler qui sortent à la pause. Barba aurait pu sortir aussi à la pause, en tout cas en ce qui me concerne. Il y a des joueurs qui répondent plus présent.
Ouais. Après, Ziegler, malheureusement pour lui, c'est vrai qu'il fait gentiment son âge et c'est dur aussi de parler comme ça de Ziegler parce qu'il a une telle carrière, mais ça devient aussi un peu compliqué pour lui. Après, là, on parle beaucoup de la réaction du FC Sion, mais on parle pas non plus de, pour moi, l'erreur des Yverdonois qui reculent aussi. Alors, j'ai pas vu tout le match.
On en parlera.
On en parlera plus tard. Bon.
Non, mais
c'est vrai qu'il y a.
Ça a quand même un rapport.
De l'autre côté, il y a aussi Yverdon qui recule et j'aurais bien voulu voir, moi, les Yverdonois qui continuent à attaquer après CO, voir comment les Valaisans auraient réagi. Après, c'est vrai qu'ils ont laissé plus d'espace et à force d'être acculé, au bout d'un moment, tu prends.
Pour moi, alors, t'as parlé des changements, mais justement, les changements de joueurs, mais le changement tactique. Système. Sur ce match a été très très important. Bah, Cipriano, je pense que c'est un de ses meilleurs matchs. Alors, il a joué 45 minutes, mais c'est la fois où je l'ai le plus vu sur cette saison. Lavanchy, honnêtement, il est bien meilleur piston que latéral. Ouais. Et sur ce match, ça s'est encore prouvé. À la 45e minute et 20 secondes, il est dans les 16 mètres pour finir une action sur un centre de Cyprien.
Alors qu'on ne l'a pas vu
en première mi-temps. Ouais. Et voilà, je trouve que... Alors, ça ne veut pas dire si on doit jouer en 3-5-2. Hein, je ne dis pas ça non plus. Mais je trouve qu'avec ce genre de profil, tu as les moyens peut-être de jouer en 3-5-2. Hier, Krejčík n'était pas là, mais il y avait quand même une défense en deuxième mi-temps à 3 qui était ultra solide. Moi, je trouve que ce Barba, qui a été très critiqué à juste titre, est très bon quand il joue dans l'axe.
Dans une défense à 3.
Et surtout, peut-être dans une défense à 3, alors que latéral, effectivement, il est un petit peu plus perdu. Donc, il y a peut-être les moyens de jouer différemment. Maintenant, c'est aussi un peu tard de tout changer, de tout chambouler. Là, on a vu sur une mi-temps que ça marchait comme ça. En tout cas, bravo à Didier Tolo sur ce match, parce qu'il a fait exactement ce qu'il fallait au bon moment.
On l'écoute, Didier Tolo, au sujet de la première période du FC Sion. Et vous allez voir que, comme nous, il a vu un FC Sion aux deux visages.
On a complètement fait une première mi-temps qui a été complètement insipide. Je veux dire, elle n'est pas digne d'un match pour se maintenir. Heureusement, en deuxième mi-temps, par contre, on a changé les choses et on a vu un FC Sion beaucoup plus conquérant. Je pense qu'on aurait pu même mettre peut-être un but avant, mais voilà, on prend ce point.
On a vu ce changement tactique, justement, en deuxième mi-temps, aussi un changement dans la mentalité. Quel message vous avez cherché à transmettre à la pause ?
Le message, c'est que... On n'a pas le droit de produire une mi-temps comme on a produit quand on joue comme ça. Donc à un moment donné, il faut changer les choses. On était battu sur le jeu long. Ali était toujours obligé de revenir dans la ligne de défensive. Donc on perdait un homme au milieu sur le deuxième ballon. Donc c'est pour ça qu'on est passé à 5. Et puis voilà, c'est amené un peu plus de profondeur avec ceux qui étaient devant. Donc voilà. À la limite, le rôle d'un entraîneur, c'est pas quand tout va bien, c'est quand ça va pas bien qu'il faut trouver des solutions. Là, on l'a trouvé et c'est bien.
On a vu un FC Sion qui, en deux matchs, a fait 4 points sans être flamboyant 2 fois sur 90 minutes. On a FC Sion en mode relegation group, en mode survie. Ça doit vous satisfaire.
Oui, parce que moi, j'ai un petit peu l'habitude de ça. Donc aujourd'hui c'est pas être flamboyant. Mais aujourd'hui, il faut essayer d'être le plus pragmatique. Voilà, on doit bien défendre, on doit bien être là, même si la première mi-temps elle est complètement indigne, mais on prend 4 points, c'est bien.
On a vu votre soulagement à la fin de ce match, on vous a vu célébrer ce nul, ça change beaucoup de choses quand même.
Oui, c'est un nul important. Quand tu es dans ce championnat de 5 équipes, que tu gagnes le premier, que tu vas faire nul à l'extérieur, voilà, tu prends 4 points en 2 matchs, c'est très bien.
On peut dire qu'on a vu un FC Sion à deux visages aujourd'hui ?
Oui, complètement.
Voilà, avec ce 1 partout, conjugué au résultat de ce week-end, surtout de samedi, est-ce que c'est le point du maintien pour le FC Sion ? Vous allez me dire non, mais moi je pense que oui.
Bon, non.
Oui. C'est réussi.
Parce que c'est pas fini, il nous reste 3 matchs, mais le match qui vient mardi, c'est... On peut régler tout ça.
Avec une victoire contre Saint-Gall.
Exact.
T'es joueur crèche, c'est pour ça que tu dis ça, et t'as raison.
Ouais, parce que...
4 points, c'est beaucoup quand même.
Ouais, 4 points, c'est bien. C'est pas top, mais c'est bien. Et c'est à nous, on a tout entre nos mains. C'est à nous, mardi, de faire le travail qu'il faut.
Bien. On parle un petit peu d'Yverdon. Beaucoup de réactions sur notre page YouTube. Fabio est là, Flavio est là, évidemment aussi, ils sont habitués. Beaucoup de personnes fâchées aussi hier au bord du terrain, des gens qui n'ont pas compris ce que voulait faire Paolo Tramezzani. J'en fais partie. Pour moi, le tournant, alors il y a le tournant du changement de système de Didier Tolo, dont on a parlé à Sion, et pour moi, c'est la sortie de Marquezano. Parce qu'il y a ce joueur de ballon qui sort, et finalement, il n'y a que des joueurs d'impact ensuite sur le ballon. Il n'y a plus le joueur qui peut te garder le ballon. Il n'y a plus le joueur qui peut t'inventer quelque chose. Et j'ai vraiment la sensation que Paolo Tramezzani a cherché plus à se défendre alors qu'il aurait peut-être pu aller chercher un deuxième but.
Mais il y a deux joueurs qui sont sortis aussi. La blessure de Harold Tazar qui a aussi... T'allais le dire.
Sauf que Tazar, c'est pas un choix. Alors Tazar, pour moi, c'est pas un choix, c'est une obligation. Et puis Marquezano, si tu le sors, tu peux éventuellement aller chercher un Boris Cespedes, par exemple, qui a ce profil-là.
Non, mais en fait... Pour moi, c'est l'histoire de la saison depuis que Tramezzani est là. C'est le manque d'ambition. C'est-à-dire que c'est dommage parce que moi, je vois un Yverdon qui est capable de faire le jeu, notamment dans son stade municipal, de dominer ses adversaires. Alors là, oui, on a dit Sion, c'était pas une bonne mi-temps. Mais si c'est pas une bonne mi-temps, c'est aussi parce qu'Yverdon est bien en face. Yverdon, il y a quand même Marquezano, Tazar, Aké en face. Offensivement, les trois ensemble, c'est très fort. C'est pas le top du championnat, mais pour jouer le maintien, c'est très fort. Et moi, ce qui me dérange, effectivement, c'est que depuis plusieurs matchs, on a un Yverdon qui est pas forcément mauvais, mais qui a ce petit manque d'ambition qui, à chaque fois, permet soit à l'adversaire de revenir dans le match, soit ben, au début du match, à l'extérieur, Yverdon va laisser le ballon complètement à l'adversaire, et puis tout d'un coup, sur un coup de pied arrêté ou je ne sais quoi, ben, il y a 1-0, puis après, c'est toujours difficile de courir après le score. Mais moi, j'ai cette impression qu'Yverdon a un manque d'ambition dans ce championnat, parce que sinon, peut-être qu'il serait déjà sauvé.
Non, mais je suis d'accord. Et c'est dommage parce qu'individuellement, souvent, quand on parle d'Yverdon, on se dit que c'est une équipe moyenne ou qui joue le bas de tableau, mais individuellement, ils ont des sacrés joueurs. On prend le jeune français Silla aussi, qui est exceptionnel. Ouais. Baridji au milieu de terrain, qui est.
Wagowski,
c'est très très fort. Et, moi, j'ai encore en tête le match à Berne, où il m'avait choqué. Honnêtement, il m'avait choqué. Parce
ou contre Servette aussi.
Ou contre Servette aussi, deux matchs avant. Et ils sont capables de ressortir les ballons, d'être dangereux, de créer du jeu. Et je suis d'accord avec toi, ce manque d'ambition, alors je ne sais pas si ça vient du coach forcément ou peut-être les joueurs qui sont un peu plus aussi sous pression parce qu'ils sentent que la fin de saison approche et qu'il faut absolument se maintenir. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils ont de telles individualités que pour moi, Yverdon pourrait faire nettement mieux.
7 matchs sans victoire et puis la saison dernière, on se rappelle qu'ils se sont aussi sauvés par les poils. Hein. C'était aussi au tout dernier moment. De toute façon, ils le savent. C'est comme ça que ça va se terminer aussi cette saison. Il y a quand même... en tout cas, moi, j'avais... Encore il y a 3-4 semaines, j'avais la sensation qu'ils étaient sortis de cette zone rouge. Quoi. Je ne les voyais pas tout à coup. Maintenant, barragistes. Alors, est-ce qu'il faut être inquiet pour cette équipe?
Moi, je pense surtout que c'est eux qui sont devenus inquiets. C'est-à-dire qu'ils prennent peur. Quand je parle de ce manque d'ambition, on se rappelle que quand ils perdaient des matchs en début de saison ou même la saison passée, des fois, c'était des 4-5-0. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que pour moi, ils sont au niveau. Sauf qu'ils ne prennent pas ils prennent pas le pli de se dire on est au niveau. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ont peur de l'adversaire plus que de se dire on peut le gagner ce match, on peut aller facilement peut-être une fois gagner 2-3-0. Ça arrive pas souvent à Yverdon. C'est tout le temps par les poils, c'est tout le temps. Bah, d'ailleurs, les 7 derniers matchs, si je dis pas de bêtises, il y a 2 nuls. Mmh. Et puis le reste, les défaites, c'est 1, peut-être 2 buts, mais il n'y a pas.
Ils se prennent une veste pas contre Saint-Gall.
J'ai un gros doute, toujours est-il que. Ouais, il y a peut-être cette panique aussi de la fin de saison maintenant qui arrive.
Ouais, il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Flavio dit manque d'envie, manque de mental. Fabio dit Cespedes serait titulaire dans les 11 autres équipes de Super League. Il y a Charles Moret, Lang parle des joueurs de Yverdon comme si c'était le Barça de 2009. Alors je crois pas forcément, on n'a pas forcément dit. Barça 2009, c'est le triplé, hein, je crois. Mais on dit pas ça. On dit que c'est des très très bons joueurs de Super League. Je pense qu'on s'est pas forcément compris. Mais par contre, on a compris que tu voulais parler du Classico. Ne t'en fais pas, on va en parler. Vous savez, je vous propose d'écouter Paolo Tramezzani. Vous êtes, on a perdu. Paolo Tramezzani, qui parle quand même souvent de courage. Donc ça va pas forcément à l'encontre de ce qu'on dit. Nous, on a l'impression qu'on a une équipe qui manque de courage. Lui, il parle souvent de courage. Et puis la première question qu'on lui a posée, eh bien, elle concerne justement la sortie de Marquezano. On l'écoute et on en parle après.
Tonino, il était pas bien. Il a pas fait l'entraînement pour une semaine. Il a joué 2 matchs en 4 jours. Et nous avons changé Varol parce qu'il était blessé. Je pense qu'avec Hugo, nous avons l'opportunité de jouer plus en profondeur.
Yverdon qui a mené pendant la majeure partie du match, mais à la fin, c'est seulement un point. Quel goût il a, ce point du nul?
Oui, l'équipe elle a joué très bien, spécialement le premier temps. Elle a contrôlé les jouets, le rythme. Elle avait eu beaucoup de chance. Et le second temps, nous avons un petit peu donné le 10-15 mètres à l'adversaire, spécialement dans la côté. Et oui, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, l'équipe il est bien, il a courage, il a confiance et nous savons qu'il n'est pas facile pour nous, mais pour l'autre club, c'est la même chose. Nous avons de continuer.
Sur les 2 premiers matchs du Relegation Group, vous avez fait 2 points ici à la maison. Maintenant, il va y avoir 2 déplacements. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour aller prendre des victoires?
Je pense que l'équipe elle donne tout. Et nous avons de jouer avec courage, avec le bon spirit, avec une bonne confiance.
Voilà, on a une réponse de la part de Flavio qui est assez géniale pour notre ami, comment il s'appelle ? Ton ami, Charles.
Demande ton ami sur Insta.
Voilà. Donc, Lang parle des joueurs d'Yverdon comme si c'était le Barça de 2009. Et Flavio répond, le Barça de 2009 surévalué comme cette année à chaque fois, dehors. Grazie, Inter. On reparlera évidemment de l'Inter aussi. Moi, j'aimerais revenir sur ces déclarations de Tramezzani. Alors, on a dit les supporters étaient très fâchés hier soir. Ils n'étaient pas confiants, justement. Et si on regarde le calendrier, c'est quand même... à Getze, c'est quand même à Winterthur et c'est quand même la réception de Zurich pour terminer. Waouh, moi, je ne serais pas confiant si j'étais fan d'Yverdon.
Ah non, bah c'est clair. Surtout, je parlais de peur. Là, la peur, elle grandit. Maintenant, tu es barragiste, tu joues tes deux adversaires vraiment direct sur les trois derniers matchs. Tu peux tout perdre alors que j'ai l'impression qu'ils avaient les cartes en main pour se sauver depuis un moment. Donc oui, non. Alors la confiance, je pense qu'elle n'est pas du tout dans les... En tout cas dans les tribunes, dans les supporters d'Yverdon. Peut-être que Paolo Tramezzani parle de confiance parce qu'il a l'impression, et ça je suis assez d'accord avec lui, que dans le jeu il y a des bonnes choses, mais ça rejoint ce que je disais avant, c'est que t'as beau avoir des bonnes choses, tu les as pas sur 90 minutes, et lui le problème c'est qu'il veut des fois trop défendre, trop solidifier, puis après il perd tout, quoi.
Mais c'est ça, parce que le problème quand tu joues à relégation, et je peux bien en parler parce que moi je l'ai souvent joué en Super League, bon moi c'est quand même la Super League, mais le problème c'est que quand
tu as Barça.
C'est pas le Barça de 2009, mais le problème c'est que quand tu as des individualités, mais tu joues la relégation, tu as tendance à arrêter de jouer au football, et tu parles tout le temps de combat, de duel, d'agressivité, mais moi je voulais un peu me défendre mon cas par rapport à ce qu'a dit Charles, mais je trouve qu'Yverdon, il y a de très très bonnes individualités, et si tu joues au football avec cette équipe-là, tu t'en sortiras. Parce que quand on voit jouer Getze, Winterthur revient très fort et très bien, mais c'est aussi beaucoup du combat, des transitions. Et Yverdon, pour moi, a les clés, a tout entre les pieds pour se sauver. Après, il faut du caractère, il faut de la personnalité pour se sauver dans une telle situation.
Mais ça, il y en a à Yverdon. Moi, je vois aussi du caractère. Je comprends ce que veut dire Paolo Tramezzani. Et en même temps, je ne peux pas ne pas être d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'elle a du caractère, mais elle manque de courage par moment. Et du coup, ça donne un peu ces drôles de résultats. Et ces performances ou contre-performances dans les mêmes rencontres.
Je m'avance peut-être un peu, mais cette histoire de courage, c'est peut-être aussi dû au fait que tu as des joueurs qui ne s'identifient pas énormément avec ce Yverdon-là. Dans le sens où, sur l'ensemble de la saison, c'est un peu comme Zurich, il y a énormément de joueurs qui ont joué pour Yverdon. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais si on regarde la compo de base du mois de septembre ou la compo de base de maintenant, je pense qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là, il y a des joueurs qu'on ne connaissait même pas dans le championnat, il y en a d'autres qui sont partis. Et c'est dur de s'identifier et d'avoir ce courage et cette confiance de vouloir sauver ton club absolument, alors que peut-être que dans 3 mois, tu n'es plus forcément là. Certains, ils ont 20 piges. Alors, par exemple, un Silla, il fait très bien le boulot, mais est-ce que vraiment tu es un mort de faim de tout donner dans ces matchs-là, à ce moment-là de la saison? Peut-être pas. À Yverdon, c'est peut-être pas le cas. Ça a été d'ailleurs aussi à Sion le cas il y a quelques années, où on avait l'impression que c'était aussi plusieurs joueurs qui étaient imbriqués et puis qui n'avaient pas vraiment de lien avec le club. Peut-être qu'une équipe comme Winterthur en ce moment a ce petit truc en plus.
Oui, parce que t'as le retour de Fabian Frey, parce que t'as Zuffi, parce que c'est des mecs qui sont effectivement attachés au... C'est vrai. On fait une petite parenthèse, on va parler un petit moment avec Krejčík. Je vous exclue pas, évidemment, vous intervenez quand vous voulez. Si Steven, tu veux aller voir
un peu pour récupérer.
C'est bon ?
L'interventeur des animaux fait du bien.
Magnifique. Donc, c'est des questions de la part de nos téléspectateurs, de nos followers sur Instagram. Krejčík, la première, quelles sont vos ambitions pour ces derniers matchs et pour la saison prochaine? Est-ce que vous pensez rester à Sion? C'est des questions qui sont arrivées du Valais et de Pologne également.
Alors les ambitions, c'est le maintien. Le match très important mardi où les 3 points sont plus qu'importants pour nous. Et pour l'année prochaine, les discussions seront faites après ces 3 matchs où je pense que c'est plus positif.
Plutôt positif pour Sion. D'accord. Waouh. C'est une jolie petite info, ouais. Ça. Plutôt positif pour rester à Sion. C'est bien pour les fans de Sion. Satisfait de vos prestations depuis votre retour à Sion. Très content pour toi, le tank, dit Ferret 45. Et donc, il faudra répondre à la question, puis aussi nous expliquer le tank, d'où vient le surnom.
Le tank, c'est quand j'étais à IB avec les potes d'équipe. Où c'est un peu mon style de jeu, fort physiquement, il m'appelait de tank et c'est resté depuis. Et merci, ça fait plaisir.
Tu sais de qui ça vient, non, je pense.
Non, le nom, c'est quoi?
Non, c'est Ferret 45.
Ça ah ouais.
Ouais. Vous savez de qui? Ok, top. Question d'un latéral droit que vous connaissez bien, qui porte un numéro 14. À quand remonte ta dernière victoire à l'entraînement?
Elle a abusé, là. C'est Nouma.
Nouma la Vanchie, évidemment.
Elle a abusé, lui.
Tu réfléchis.
Ah, ça date,
non,
alors.
Non, mais c'est depuis que je suis arrivé.
C'est qu'à l'entraînement, c'est trop compliqué. C'est trop petit.
C'est compliqué, là. Depuis mon arrivée aux sessions, les victoires, je peux les compter sur une main.
Ah, voilà.
Ah. Ah, ouais. Au moins, tu l'as, c'est bien.
Un autre de vos coéquipiers, on ne vous dit pas qui c'est avant votre réponse. Comme ça, on rigole un peu. Qui est le plus nul au ping-pong?
C'est Ali. Ali Kabakablan.
Le plus nul?
Ouais, il okay. est nul.
La question est de Kevin Bua. Mais on avait déjà eu cette question et Ali avait reconnu, je crois, qu'il était le plus nul.
Bon. Non, Ali, il est nul.
Salutations à vous et à votre papa de la part de Massimo. Et puis, Daki demande si le FC Chipis est toujours dans votre cœur. On rappelle que c'est le club de vos débuts.
Bien sûr, je vais souvent regarder, même mon frère y joue. Et dès que je peux, dès que j'ai du temps libre, on se retrouve là-bas, les potes, et on regarde, pour être sincère, un vieux match. Et on est toujours là.
Et ça fait plaisir. Il y a une question pour le frangin. Ou je ne sais pas qui a envoyé ça, mais est-ce que votre frère arrive toujours à vous mettre des petits ponts?
Il ne m'en a jamais mis. Il faut arrêter, c'est qui écrit ça?
Là, je ne sais pas d'où elle vient, celle-ci. Alexis Joe vous demande à quel point, si vous pensez, à quoi vous pensez si on vous dit Control Center.
Il est fou, le Call of Duty.
Ah voilà.
Il est fou.
Donc vous jouez aux jeux vidéo?
Ouais.
Beaucoup?
Ouais, Custodio et Alexis.
Ok, alors on a des questions là sur les jeux vidéo, effectivement, si vous jouez. Et puis Clash of Clans aussi.
Oh, c'est qui ça?
Michel Morganella.
Le mec, c'est une légende lui.
Michel Morganella, ouais. Incroyable.
C'est ouais, une légende.
Michel Morganella,
ouais.
Ouais, je salue. Ouais, qui nous suit, qui nous écrit le mec. De temps en temps.
C'est une légende lui.
Michel Morganella, magnifique.
Joueur comme personne, c'est énorme.
Ouais. Top. Là, je la pose un petit peu en mode jeune, mais elle a été posée comme ça. C'est un truc du genre un peu « Wesh, le cas, la diff de level entre Suisse et Pologne, c'est comment ?»
Ah ouais. Oh.
Question posée par Jonas. Je
connais pas.
Comment c'est la différence entre la Pologne et la Suisse? Je crois que c'est la ferveur, surtout en Pologne, qui est géniale.
Ouais, ça, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est ce qui est beau, vraiment, ce qui manque un peu en Super League, où t'as deux, trois équipes qui ont... un vrai stade rempli. Et surtout, c'est, ouais, on va dire, physique. Mm-hmm. C'est des machines là-bas. Comme on parlait avant, des jeunes de 15 ans, c'est des armoires. Je pense que c'est ça qui est la plus grande différence.
Ça aurait été un championnat pour moi, ça.
Ouais. Ouais. Ou pour moi.
Tu passes entre les jambes.
Physiquement, je pense que c'est une des grandes différences.
Ouais.
Bah, l'ancien Lucerna qui est là-bas, Bourges.
Ouais.
Ouais.
Il est prêté, ouais. Là. Ou Bourges. Il était à Legia.
Ouais. Et il y a Jean-Pierre Nsamé qui était aussi là, qui est désormais à Saint-Gall, prêté aussi, d'ailleurs, comme vous. Il y a une question de Tom Cliva. Elle est dirigée à Krejčík, mais je vous propose de la poser à tout le monde. Que pensez-vous du niveau de Mirončuk? Que pensez-vous du joueur de Mirončuk?
Wow.
Pour moi, super, enfin très très décevant. Alors, ça se voit qu'il a du ballon, ça se voit que techniquement il est propre sur les coups de pied arrêtés. Après, on l'a tellement vendu comme une star entre guillemets que pour moi, ce qu'il apporte actuellement, c'est clairement insuffisant. Et alors, je parle par rapport au niveau qu'il peut avoir, parce que ça reste quand même un très très bon joueur, bien sûr, mais il n'est pas assez décisif et il est en grande partie aussi responsable du fait que Sion se retrouve dans cette position, oui et non, parce que ça reste quand même un néo-promu et pour moi, Sion est à sa place. Mais quand vous avez un tel joueur qui vient avec avec une telle carrière, il doit apporter plus dans notre championnat suisse.
Moi, j'ai l'impression que, en fait, j'arrive pas à décider. On est au mois de mai et j'arrive pas à savoir si c'est un bon transfert ou pas. Parce que le joueur, tu vois qu'il a le foot. Enfin, je veux dire, il a une carrière de ouf. Il a joué la Coupe du Monde. C'est un excellent joueur. Mais est-ce que c'est un bon transfert? Est-ce qu'il est au bon endroit? Pas à Sion, mais tout simplement en Suisse. Oui, j'imagine qu'à Bâle, à Berne, il serait peut-être dans de meilleures conditions avec des autres joueurs aussi à côté. Est-ce que c'est un mauvais transfert plutôt qu'un joueur qui est dans l'embarras?
Je pense que tu as utilisé deux mots, tu as dit excellent transfert ou mauvais transfert, je pense qu'on en est, on en est loin des deux. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un joueur qui est capable et qui l'a apporté quand même des choses. Et je trouve d'ailleurs, à ses débuts, limite, c'était presque mieux que maintenant. Maintenant, il s'est un petit peu éteint. Et peut-être que le problème qu'il y a, surtout, c'est que ce n'est pas un joueur qui doit jouer dans une équipe de battants, qui doit jouer dans une équipe qui doit vraiment se battre sur tous les duels pour aller chercher des points en fin de match. Je pense que ce n'est pas ce type de joueur-là. Et c'est pas le gars qui va non plus beaucoup courir sur le terrain. Par contre, quand tu lui donnes le ballon, tu sais que normalement, il se passe des choses. Il est souvent critiqué, mais c'est aussi peut-être le style de jeu de Sion qui lui convient pas forcément énormément. Mais on voit quand même que c'est un joueur qui a quelque chose. Le dernier match, donc avant Yverdon, je ne me rappelle plus qui c'était.
C'est Zurich.
Voilà. Pour moi, quand il a le ballon, il fait quasiment tout le temps une petite différence. Par contre, il ne l'a pas beaucoup. Donc, c'est peut-être là le souci.
Krasnik, vous le côtoyez tous les jours ?
Techniquement, c'est quelque chose de fou quand même. Ou c'est l'un des meilleurs joueurs techniquement que j'ai joué avec. Après, comme vous dites, moi, je pense juste le championnat suisse, c'est pas pour lui. Ou tu le mets en Espagne, où c'est le ballon qui court, c'est pas lui qui court. C'est ça qui fait la différence. Toi, t'as dit, pour moi, c'est tout à fait ça. Où c'est pas une équipe, tu dois pas le mettre dans une équipe où il doit se battre. C'est pas un joueur qui pour ça. Ou sinon, on doit l'utiliser autrement peut-être.
Mais c'est là où on voit un bon joueur. C'est quand l'équipe ne joue pas pour lui ou ne joue pas forcément son style de jeu. Parce que c'est vrai que actuellement tout le monde est bon à balle parce que bon, les ballons viennent. Mais si je prends par exemple un Di Giusto qui est un peu moins bon cette année quand même, mais ça reste un joueur de qualité. Je pense pas que Winterthur joue un beau football, mais il arrive par moment à faire des différences. Et pour moi, c'est ce qui manque avec Mirantchouk, même si techniquement, ça se voit qu'il a, il a du ballon et il a la classe.
Une dernière question pour vous, Christophe. On aimerait te voir jouer contre la Suisse avec le Kosovo. Vous avez 4 sélections. Votre dernière sélection, c'est justement contre la Suisse. C'était en novembre 2023. En qualif pour l'Euro 2024. Cette sélection, vous l'avez encore dans un coin de votre tête, j'imagine.
Bien sûr. Ouais. Elle a été incroyable. À Bâle, devant ma famille, dans un stade que je connais parce que je jouais en Super League. Ouais, c'était un truc de fou. Je joue contre mes deux pays. Enfin, j'étais avec mon pays, je jouais contre mon pays. C'était beau. Après,
et vous aimeriez... C'est encore un objectif.
Bien sûr. Moi, quand je suis parti en Pologne, c'était pour essayer de faire le pas qu'il me fallait après la Super League et surtout de faire le pas d'être un joueur titulaire en équipe nationale. Après, tout n'a pas été comme je le souhaitais. Mais le retour au FC Sion, ça m'a fait beaucoup de bien, où on a repris un peu contact avec l'équipe nationale en espérant quelque chose de positif pour la prochaine convocation.
Je dis ça, je dis rien, mais la Suisse est dans le groupe du Kosovo là, pour les qualifs pour la Coupe du Monde. Donc ce serait
pourquoi pas
belle histoire de retourner en sélection et de rejouer directement.
Ouais, avec plaisir, vraiment. Moi, ça reste un objectif. L'objectif le plus important, là, c'est le maintien avec le FC Sion, les prestations personnelles comme collectif. Et après, si la convocation elle est là, moi je suis un joueur qui... Tu me donnes la chance, je te redonne fois mille. Je vais toujours me battre. Et si elle vient, je la prendrai avec plaisir.
Ouais, on a beaucoup aimé. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, on a proposé un sujet sur Krasnik Arizi la semaine dernière où il parle justement du fait qu'il n'a pas toujours eu un chemin facile et il a toujours dû se donner un maximum pour pouvoir atteindre ses objectifs. Allez le voir, il est évidemment sur notre page YouTube. Vous le trouvez également aussi sur Blue News. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'interview Krasnik ? Est-ce que vous avez une question à lui poser avant qu'on passe à la suite ?
Je trouve ça intéressant de dire je voulais passer un palier pour, en allant en Pologne. Comment ça se fait qu'un joueur plutôt important de Lugano se retrouve justement à jouer en Pologne l'année suivante après ?
Il y a eu beaucoup de faits quand même, parce que c'est vrai que les gens ils restent un peu surpris que je signe en Pologne. Après, on va dire que c'est un championnat qui me correspond un peu dans mon style de jeu. Après, on va dire, pas ça n'a pas été, mais c'était sûrement pas le... On va dire, ils disent que ce ne sera pas le choix parfait pour moi, ce que j'ai fait. Mais il y a eu la blessure avant la fin du championnat avec Lugano qui me prive...
Ça a fermé des portes.
Ouais, beaucoup même. Et avec Lugano, ça, y a, les discussions n'avançaient pas. Et les peu de clubs qui sont restés, pour être sincère, ben, y avait les Polonais qui m'ont montré plus de confiance et plus d'envie de, pour me prendre. Et comme j'ai dit avant, quand tu me montres ou quand tu fais un pas vers moi positif, ben, je te le rends. Et ils ont été très, très positifs avec moi. Ils m'ont donné beaucoup d'envie. Après, quand je suis arrivé, c'était une autre histoire, mais c'est pour ça le choix en Pologne.
Et les autres clubs qui vous ont manifesté un intérêt, c'est en Suisse, ailleurs
en... Ouais, en Suisse et en deuxième Bundesliga.
Mm-hmm. On peut avoir des noms, on essaye.
Il y avait Darmstadt qui venait tomber. Mm-hmm. Okay. Et Braunschweig, je crois.
Ah, Braunschweig.
Okay. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un intérêt du Lausanne Sport? Parce qu'on a eu une question de la part de Donat Troudani qui vous demande pourquoi vous avez refusé le Lausanne Sport l'été dernier. J'ai aucune info, c'est Donat.
Oui, il y a eu des discussions, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons. L'accord.
Qui reste entre vous. Voilà. Vous pouvez gagner le maillot de Krešnik Ajrizi, signé, il est tout neuf, il y a encore l'étiquette, vous le voyez ici, c'est Krešnik qui vous l'offre. Ce sera prochainement sur nos réseaux sociaux, donc soyez bien connectés avec notre community manager qui fait un travail de fou, qui a d'ailleurs vécu une semaine complètement dingue à Milan et à Paris. On salue évidemment Marco Loria. On passe maintenant à la suite de notre émission, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé à Genève entre Servette et IB. Alain Rohrbach était sur place avec son équipe, il nous a envoyé ceci. C'est pas parti.
Ça va arriver.
Ça va arriver, c'est du direct. On attend ou on passe à la suite, on peut parler de Lausanne. On peut y aller. C'est parti Alain.
C'est avec plaisir, Dani, qu'on vous fait part de notre débrief à chaud. Il a juste eu le temps de changer son maillot, Timothée Cognat, parce qu'il a beaucoup donné à l'image de Servette. Tout d'abord, Timothée, première question. Comme toujours, quand on fait match nul, quel sentiment vous habite là, à quelques minutes après la rencontre ?
Non, c'est vrai, quand on voit la deuxième mi-temps, on est un peu frustré. Après, voilà, chacun a eu sa mi-temps. Je pense que IB était plus dominant que nous en première mi-temps. Après, voilà, quand on a des occasions, il faut les mettre au fond. Malheureusement, aujourd'hui, moi le premier, je tape le poteau. Derrière, on a des occasions un peu franches, donc il faut les mettre au fond, on ne les met pas. Un point, on le prend quand même. C'est pas, on va pas cracher dessus, mais à la maison, on espère toujours faire plus qu'un point.
Bah Kevin, c'est vrai qu'en première mi-temps, on l'a dit, Dolin l'a dit également à l'interview, on était surpris de la profondeur laissée par Servette qui ne semblait pas coordonnée. Comment on peut l'expliquer à la 35e journée?
Ah, c'est difficile de l'expliquer. Et souvent, il y a des matchs qui sont comme ça, où tu as une équipe qui est coupée en deux. J'avais cette impression depuis les tribunes que derrière on cherchait peut-être à relancer court. Et au final on n'était pas tous synchronisés. Il y avait des longs ballons, mais du coup les lignes étaient très, très écartées. Et pour récupérer le deuxième ballon, c'était plus compliqué. Et en deuxième mi-temps, on a vu Servette qui a été mieux dans les duels, qui a récupéré beaucoup plus de ballons, qui a joué aussi plus compact. Et c'est clair que quand tu récupères le ballon à 30 mètres des buts d'IB, c'est plus facile de créer des occasions. Et ça permet aussi à Timothée de ne pas devoir faire des pousses de 40, 50, 60 mètres. Chose qui
il aime
plus
bien.
À l'aise. Non, il est plus à l'aise avec le ballon dans les pieds. Donc, et ça s'est tout de suite ressenti et Servette a eu tout de suite des occasions.
Ben, on profite de votre présence, Timothée. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire pour réajuster ce qui n'allait pas en première mi-temps?
Non, c'est vrai que vous avez tout dit, voilà, on avait deux lignes. On savait pas trop si nous les attaquants, on savait pas trop, plutôt la ligne offensive, on savait pas trop s'ils voulaient ressortir, s'ils voulaient jouer long, c'était un peu brouillon. On a vu certains joueurs de derrière qui tournaient le dos quand Joël avait la balle, donc en fait on s'attendait à ce qu'ils jouent long. Voilà, ce qu'on a dit à la mi-temps, c'est qu'il faut arrêter de vouloir jouer que long, il faut essayer de jouer et reprendre un peu notre jeu. Après voilà, c'est sûr que c'est compliqué, on a la balle, on a fait deux erreurs qui nous ont coûté deux buts, donc c'est sûr que voilà, t'as un peu plus la peur qui t'envahit, ce qui est normal. Mais voilà, il ne faut pas renier notre ADN. Notre ADN, c'est de savoir ressortir la balle, savoir jouer et créer, et être surtout fort avec le ballon. En deuxième mi-temps, on a été fort avec le ballon et fort sans ballon. Et on a vu qu'on a tout de suite été beaucoup plus dangereux.
Et Kevin, on dit toujours que l'important, c'est les trois points. Mais dans la situation actuelle, à trois journées de la fin, ce point, il est autant important qu'une victoire parce qu'il permet à Servette de garder deux longueurs d'avance sur IB et de laisser tous les autres à distance. Lucerne, Lugano et Lausanne, hein, vos trois derniers adversaires.
Oui, il ne faut pas oublier qu'ils ressortent d'un match extrêmement compliqué à Saint-Jacques où j'imagine qu'il y a eu beaucoup de déceptions. C'était un match qui se jouait presque pour le titre. Tu sais qu'à la fin de ce match-là, tu as quasiment le titre qui s'envole. Tu retrouves une équipe d'IB chez toi à domicile où tu sais que tu n'as pas le droit de perdre. Et les enjeux ne sont pas faciles. Et pour moi, aujourd'hui, ce point pour Servette est un bon point. Et c'est un point où tu peux t'accrocher et puis tu peux vivre avec aujourd'hui vu les circonstances du match.
Parce qu'on va mettre fin à un débat. Les joueurs du Servette FC veulent absolument finir deuxième. Peu importe les scénarios qu'on fait sur le deuxième, le troisième, c'est mieux d'être troisième, etc. Les joueurs sont des compétiteurs. Kevin Fickenscher, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Vous n'allez pas le contredire. Pas dans match après match, ça ne se fait pas.
Non. Chaque joueur a envie de finir le plus haut possible. Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire que la troisième place est mieux que la deuxième place pour les places européennes. Après, voilà, l'objectif du club, c'est déjà d'être dans ces places européennes. Voilà, on va se battre. Après, la place où on est, c'est sûr que je préférais être deuxième et pouvoir rejouer, même si c'est que les matchs de qualificatif. Mais les matchs de Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup plus attrayant que des matchs d'Europa League.
On est d'accord. La Champions League est quand même plus attrayante que la conférence. Exactement. Ça, on est d'accord.
Bon, bah, les joueurs ont toujours raison, hein, Dani. C'est sur ces mots positifs qu'on va vous rendre la parole. Merci, Timothée. Bonne fin de saison à Servette. Merci. Et à vous.
Les joueurs ont toujours raison, effectivement, à part Steven Lang, parce que Steven Lang te trompe souvent.
Il se trompe souvent, mais bon.
Mais pas quand t'étais joueur.
Pas tous. Petite
balle perdue, merci.
Pas quand t'étais joueur. Allez, on va parler un petit moment du Lausanne Sport, qui a partagé l'enjeu à Lucerne ce dimanche. On va prendre des nouvelles d'Alvin Sanchez, qui s'était blessé gravement lors de sa première sélection avec l'équipe de Suisse. Il est parti s'opérer au genou. On est allé prendre de ses nouvelles et on en parle juste après.
Je me suis fait opérer à Lyon. Avec le chirurgien Sonri Côté. Juste après l'opération, j'avais les béquilles pendant 2 semaines. Et ensuite, je les ai enlevées. Au fur et à mesure, je pouvais commencer à marcher un peu. En général, le genou, il répond bien, assez bien. Des fois, il y a des petits gonflements, tout ça, mais c'est normal. Parce que je travaille dessus un petit peu. Et ouais, après, je dois glacer.
Bon. Complexe du vélo.
Je peux marcher, pas encore trottiner, mais je commence à faire des squats avec une machine qui s'appelle le BFR. Et ouais, normalement cette semaine, je devrais commencer à la stabilité, mobilité, tout ça. Aussi avec le genou, je commence à travailler sur le genou, mais c'est encore assez frais. Ça veut dire que je commence doucement à travailler sur le genou.
Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Ça pardonne pas.
Oh putain, tu fais les soins avec le micro, toi.
Non, ouais. Sérieux. Putain, vraiment... c'est quoi ça? Eh, hey, même Lionel Messi, il fait pas les soins avec le micro. Sérieux, quoi.
Au début, ça a été difficile. Mais ensuite, j'ai eu le soutien de tout le monde, des supporters, du staff, des coéquipiers et aussi de ma famille. Du coup, bah voilà, c'est fait, j'ai envie de dire, et ouais, il faut passer par-dessus. Il n'y a jamais de bon moment pour une blessure. Et puis voilà, de toute façon, moi je prends les choses comme elles sont. On n'est vraiment pas pressé. On regarde comment il est le genou et on va step by step.
Et Steven, je me retourne vers toi. Justement, tu as connu ce genre de blessure durant ta carrière. L'important, c'est vraiment, je pense, de prendre du temps pour revenir bien, parce qu'il y a des joueurs qui ont eu ce genre de blessure et qui ne sont jamais revenus comme ils étaient avant.
Ouais, c'est ça, mais c'est difficile d'expliquer à un joueur de prendre son temps, parce que tous les joueurs pensent que les croisés, c'est 6 mois. C'est une blessure qui est le cauchemar pour tous les footballeurs, c'est ce qu'on redoute tous quand on joue. Ça arrive toujours au mauvais moment. Soit on est au top, soit on est vraiment au fond du bac quand ça arrive. Là, pour Alvin, c'est très dur parce que c'est un joueur qui était au top de sa carrière. Et c'est une blessure qui est compliquée. Pour moi, on ne revient jamais à son meilleur niveau. Parce que souvent, on entend la phrase « Ouais, tu vas revenir plus fort ». Ça, c'est beaucoup dans la tête. Alors, bien sûr qu'au niveau des mouvements, il pourra bien plier, bien tendre. Et je pense qu'il va prendre aussi du muscle. Par contre, pour moi, le plus dur, c'est mentalement. Parce que ben, lorsque ça arrive, le choc... Que ça fait le petit bruit encore quand on entend que le ligament lâche, ça c'est un bruit qu'on n'oublie jamais. Et après de retrouver le terrain, de retourner, d'essayer d'aller au duel, on ne joue pas de la même manière. Après il est jeune, donc il va bien se remettre et je lui souhaite le meilleur, mais pour moi c'est une blessure qui peut vraiment freiner une carrière.
Il avait déjà eu une blessure hein, d'ailleurs au genou. Est-ce qu'il parle de son entourage? C'est vraiment si important que ça, ton entourage, d'être bien entouré dans ce moment-là?
Bah, de la famille, bien sûr, mais qu'on soit blessé ou pas, et surtout des physios, parce que et surtout le médecin, parce que le médecin est primordial. Si le médecin opère bien et fait les choses bien, ça va bien se passer. Et ensuite, les physios, faire les soins et prendre son temps, surtout parce qu'il faut que le ligament se consolide. Et s'il reprend trop vite, ça peut être très, très dangereux pour qu'il y ait une rechute. Et souvent, on voit qu'il y a une rechute, mais pas au même genou, sur l'autre genou, parce qu'on a souvent tendance à compenser. J'ai l'impression que je suis médecin, là, et que j'explique la blessure.
C'est
mais
très intéressant.
C'est difficile, parce que moi, heureusement, je l'ai vécu en fin de carrière. Quand on le vit comme lui, au début de carrière, allez, ça va bien se passer pour lui, mais ça peut freiner vraiment une carrière.
Mika, on vient pas sur tes deux genoux.
Non, mais c'est marrant ce que dit Steven, parce que du coup, c'est vrai que bon, je suis pas vraiment à ce niveau-là, mais j'ai eu les deux genoux, et puis peut-être qu'effectivement, j'ai compensé sur un, parce que quand je suis revenu de blessure,
t'appuies plus sur le jambe.
Ouais, alors que j'avais l'impression que tout allait bien quand même. Mais
on a le match contre les Suisses allemands bientôt, rassure-moi, tu seras là quand même.
Là, on verra. Peut-être que je viendrai te supporter.
Allez, on va écouter Ludovic Magnin à l'issue de ce 1 partout contre le FC Lucerne. Il revient notamment sur la scène du penalty sifflé puis enlevé.
Je pense que cette scène de penalty nous a sorti un peu du match pour les 10 dernières minutes. Donc voilà, c'est humain, je pense. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé, c'est humain.
Votre sentiment sur cette scène?
Il faut que je la revoie. Le seul truc que je sais, c'est que M. Wolfsberger, qui est à la VAR, il a le même avis que moi, puisqu'il a envoyé M. Piccolo revoir l'action. Donc il faut croire que pour lui, c'était un pénalty comme pour moi.
Vous restez bien dans le coup quand même par rapport à cette fameuse lutte pour les places européennes. Et c'est peut-être la bonne nouvelle, la meilleure des nouvelles aujourd'hui.
Oui, mais nous, on sera dans le coup jusqu'à la fin. Et que ça plaise ou non, les 5 autres, ils nous auront sur le dos jusqu'à la fin. On ne va rien lâcher. Et on a vu aujourd'hui encore une fois que l'équipe, elle est saine. Elle se bat bien. Et puis, elle est très proche de gagner à chaque match.
Et petite correction, le pénalty n'a pas été sifflé. Il y a eu le ballon touché par Kalisen, puis la main. Mais le pénalty n'a pas été sifflé au départ. On revient maintenant sur ce que vous avez probablement vu sur Blue Sport cet après-midi. Le classico, encore un classico d'anthologie. Un classico extraordinaire parce qu'il y a de nouveau tout eu. Victoire du Barça qui se rapproche encore un peu plus du titre. Pratiquement champion le Barça, puis on a vu deux classicos en Liga avec plein de buts, ouais. On a vu les autres classicos dans d'autres compétitions cette saison avec plein de buts. Tout n'est pas juste, il y a des erreurs en défense qu'on ne devrait pas voir, mais bon, voilà, l'essentiel c'est qu'on passe aussi des fois un bon moment quand on regarde un match. Ouais.
Ah, alors là c'est clair, parce que on avait c'est rien contre le niveau du championnat suisse, mais on avait le Servette IB sur un écran et le Barça Real sur l'autre. Honnêtement, on était quand même plus focus sur le classico aujourd'hui. Comme tu l'as dit, il y a des erreurs, mais je pense qu'au bout d'un moment, faut les, quand on est fan de foot, faut les enlever, ces erreurs. Faut pas regarder ça. Là, en fait, le suspense, l'émotion, le scénario. Si on n'est pas, si on est fan du Real ou du Barça, je pense qu'on le vit pas toujours très bien parce qu'il se passe 80 000 trucs. On n'aime pas l'arbitre, on n'aime pas l'adversaire, on n'aime pas beaucoup de choses dans un match comme ça. Mais comme nous, quand on a regardé ce match en tant que supporter neutre, entre guillemets, en tout cas, on aime le foot, quoi. Et ça, c'est un match qui nous fait encore plus aimer le foot, quoi.
Parce que t'as deux équipes qui calculent pas. Et pour moi, le Barça défend très mal. C'est ce qui fait aussi qu'il y a souvent beaucoup de buts. Mais en même temps, ils sont tellement bons offensivement qu'on sait qu'il y aura du spectacle. Mais c'est incroyable de se dire que le Real menait 2-0 à la 15e. Et à la mi-temps, il y a 4-2. Il y a 4-2 à la mi-temps. Donc, ouais, c'est vraiment du beau football. C'est pour ça que beaucoup de joueurs veulent jouer en Espagne. Parce que là, on calcule moins que dans les autres championnats.
Mais t'as aussi quand même cette équipe du Real qui mène 2-0. Hein, d'accord, c'est à Montjuïc, tu mènes 2-0. C'est jamais arrivé. Enfin, j'ai la stat, hein, 123 ans de classico, qu'une équipe mène 2-0 et se fasse rejoindre encore avant la pause. Ça montre aussi quand même effectivement certaines lacunes, même si on a décidé de jouer au foot. C'est beau, mais il y a ces lacunes-là.
Bah.
Krechnik,
bah ouais,
défenseur.
Après, moi, je suis plus pour Barça. Mais quand tu vois le risque qu'ils prennent à jouer tellement haut, alors qu'ils gagnent 4-2... Ils pressent et tu vois la défense sur la ligne du milieu de terrain à essayer de jouer un hors-jeu.
Ouais, à la 96e. Hein. 96e, ouais. Ils jouent encore tous sur la ligne du milieu de terrain. C'est dingue.
En fait, pour moi, ce classico, au niveau défensif, il nous montre pourquoi le Real et le Barça ne sont pas en finale de Champions League. Parce que, honnêtement, il y a le talent, il y a énormément de... Ça joue bien, ça joue au foot, il y a l'individuel, le collectif, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, effectivement, il y a des énormes lacunes, il y a des joueurs qui ne sont peut-être plus à leur... top niveau, il y a même voilà, on parle d'un, par exemple d'un David Alaba qui est en fin de carrière au Real, on parle d'un tout petit jeune Raúl Asensio qui vient d'arriver, qui sort un peu de nulle part, il n'est pas encore, je pense, au top niveau, même pas au coup Barça, au Barça, il est là, il a 17 ans, c'est plus facile d'avoir 17 ans puis de jouer ailier que 17 ans et de jouer.
Mais alors, je suis d'accord avec toi qu'à moitié, parce que je te suis pour le Barça. Je te suis moins pour le Real, parce que le Real, c'est une autre histoire. Le Real, c'est qu'il a manqué tellement de joueurs, il y a tellement de joueurs à l'infirmerie que si tu peux avoir ta charnière centrale et tes vrais latéraux, moi, je pense que le Real ne fait pas les erreurs qu'on a vues cette saison, ni en Champions League et ni en Liga. Si tu as ton Carvajal, si tu as ton Militao, si tu as ton peu importe qui tu mets à côté, ton Rudiger ou ton Asensio ou peut-être. Peu importe qui, et puis ton Mendy ou peu importe qui sont tous fit et sains, tu ne dois pas jouer avec Valverde latéral droit, avec Tchouaméni en défense centrale,
Camavinga,
tout ça. C'est pour ça que moi j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même genre d'explication. Après, j'ai une autre chose dont j'aimerais vous parler, les gars, c'est quand même Kylian Mbappé, quoi.
C'est le pauvre.
Triplé dans un classico.
Ça me rend fou, honnêtement. Hein.
Il perd, et je me rappelle, triplé en finale de Coupe du Monde, ouais. Et il perd aussi. Ouais. C'est un peu le chat noir.
Bon, après. Du coup, ce qu'on disait avant avec cette défense du Barça très haute, c'est un match pour lui.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a de l'espace derrière la défense. Il a été signalé, je crois, 2-3 fois hors jeu où il aurait pu avoir but, où il a même un but annulé. Non, juste pas, parce que Chechny avait fait l'arrêt. Mais enfin voilà, il obtient le pénalty. Aujourd'hui, tu peux pas lui en vouloir à lui.
C'est le plus dangereux devant lui.
Ouais.
C'est le plus dangereux. Et on le critique, alors que je crois que c'est le joueur étranger qui a le plus de buts pour sa première saison. Il a dépassé Zamorano. J'ai une petite stat que j'ai regardée.
Ouais. Il a fait mieux que Cristiano. Il a fait
oui. Et on le critique. Il ouais. Faut se rendre compte, le Real, c'est pas le PSG. Il y a plus de pression, ouais. il y a une attente, il y a un transfert. C'est le premier changement dans sa carrière. Et pour moi, il a répondu aux attentes. Alors, bien sûr, il y a un déséquilibre avec Vinicius. Ça, c'est pas de sa faute. Lui, on lui a demandé de jouer devant, il marque des buts.
Mm. Ouais.
On veut quoi de plus?
Je fais juste une mini parenthèse. Je demande à Laurent Morel en régie si on passe sur les images en direct de Bâle ou pas. On va avoir les images directes en direct de Bâle parce qu'on ne pourra pas parler de Champions League malheureusement, mais ça, c'est en direct. Ah. C'est le titre du FC Bâle et je crois qu'il faut qu'on termine là-dessus, les gars. On n'a pas trop pu s'étendre sur ce classico. On parlera de Champions League une autre fois. On aura le temps, évidemment, de parler de cette belle finale qui nous attend le 31 mai à Munich. Équipes qui sont très très différentes. On a une belle opposition de style. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Pardon. Là, c'est en direct, les gars, et les joueurs de Bâle qui vont sortir. Et voilà, ça fait ça. Moi, ça me donne la chair de poule.
Ça fout presque les frissons. C'est dommage, on n'a pas exactement le son là-dessus, mais
peut-être qu'on peut envoyer le son. Je ne sais pas si en régie on peut envoyer un peu de son quand même.
Ce monde quand même qui est présent, alors qu'il n'y avait même pas de match de Bâle aujourd'hui. On est dimanche de fête des mères. Alors j'espère quand même qu'ils ont mangé avec leur maman à midi, certains. Mais
ils ont le temps entre.
Ouais, c'est ça, mais c'est quand même assez fou de voir ce monde-là présent un jour où il n'y avait pas match. Alors oui, c'est le retour du titre à Bâle, mais ouais, non, c'est beau, mais et ça prouve beaucoup de choses, ça.
Moi, j'ai été formé au FC Bâle, donc j'ai fait 5-6 ans là-bas, je connais quand même un petit peu le club, et il faut se rendre compte quand même de la grandeur du FC Bâle. Je suis très content qu'on les retrouve à ce niveau-là, mais il y a un truc, c'est la Barfuseplatz, Barfi, je pense que Carlos Varela pourra en parler encore mieux que moi, mais en fait, quand vous signez dans ce club, on vous demande à ce que... À la fin de la saison, on se retrouve là sur le balcon. Il y a d'ailleurs un très bon restaurant mexicain juste en dessous.
Ah voilà.
Vraiment, ça vaut le
détour. On finira là-dessus.
Ça vient d'où, ça?
Non, mais c'est Papa Joss, mais c'est exceptionnel. Mais là, ce moment-là, quand on est joueur du FC Bâle, il faut le vivre. Et à mon avis, c'est unique en Suisse. Et là, de revoir les gens qui sont là devant ce balcon. Ah, ça doit être très très fort pour les joueurs.
J'espère qu'ils ne vont pas tous aller manger un taco.
Ils vont y aller, c'est sûr.
Ce sera le mot de la fin, je crois. Krejčík, merci infiniment d'être venu nous voir. Merci au FC Sion de nous avoir permis d'avoir Krejčík avec nous. Merci beaucoup, Michael. Merci, Steven. Papa Joss, on a retenu à Bâle. Faut y aller, allez-y, on mange d'excellents tacos. Merci à Oli Forte aussi, qui trouvait qu'il n'y avait pas assez de goodies de Winterthur, qui nous a envoyé sa casquette avec ses initiales, que vous pouvez aussi gagner sur nos réseaux sociaux. Très, très belle fin de dimanche à vous tous. Bonne fête à toutes les mamans, surtout à la mienne. Ciao !